Radio Okapi. À la présentation du journal, Pascal Massirika.
À la une ce soir, rendez-vous manqué ce mardi à Lubumbashi où le meeting populaire prévu par le candidat président Martin Fayulu Madidi n'a pas eu lieu aujourd'hui. Ces militants ont été dispersés par la police nationale au motif qu'ils troublaient l'ordre public. Nouvelle attaque de rebelles ougandais de l'ADF hier soir au quartier Mabasele dans la commune d'Oicha à Beni. Le bilan dressé par la société civile fait état de 10 personnes tuées et d'une autre portée disparue. Les enfants représentent plus d'un tiers des cas d'Ebola dans l'est de la RDC. Révélation faite à Kinshasa par l'UNICEF ce mardi. Et puis notre invité, c'est le chef de la diplomatie belge. Didier Reynders parle des possibilités de restitution d'œuvres d'art africains se trouvant au Musée Royal. Madame, Messieurs, bonsoir. Le meeting prévu par le candidat président de la République, Martin Fayulu Madidi, n'a pas eu lieu ce mardi à Lubumbashi. Ses militants ont été dispersés par la police nationale au gaz lacrymogène et au moyen du camion anti-émeute au motif que les manifestants ont troublé l'ordre public et s'en prennent aux biens privés. Quelques manifestants ont même été interpellés. Le récit de Jean Gandou.
Bien avant l'arrivée de Martin Fayulu, la police a usé des gaz lacrymogènes pour disperser tous ceux qui étaient non loin de l'aéroport attendant son arrivée. Et c'est en début d'après-midi que son avion a atterri à La Loano. Les sympathisants grossissaient les rangs au fur et à mesure que son cortège s'ébranlait vers le centre-ville. À la grande place de la poste, la police les a dispersés au moyen du camion anti-émeute et de gaz lacrymogènes, ce qui a obligé certaines personnes à fermer leur commerce. Ce cortège ne pouvait donc pas atteindre les lieux prévus pour les meetings à la Cité des Jeunes, car ceux qui avaient précédé y ont été chassés. Le podium et autres matériels de sonorisation étaient saccagés. D'après le coordonnateur de la coalition Lamouka, dans le Grand Katanga, Martin Fayulu et ceux qui l'accompagnaient ont inhalé les gaz lacrymogènes, ce qui a fait qu'on l'amène dans une polyclinique de la place pour des soins. Entre-temps, Kyungu Akumanza rapporte que, dans ses échauffourées avec la police, il y aurait un mort. Information non confirmée par la police. Pour cette dernière, si elle est intervenue, c'est pour rétablir l'ordre, car les manifestants ont commencé par brûler les véhicules des particuliers avant de lancer des projectiles sur les policiers. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
De son côté, Emmanuel Ramazani Shadary, candidat président de la République, candidat du FCC, est arrivé cet après-midi à Isiro en provenance de Bouta dans la province du Bazouélé. Sur place, il tiendra ce soir un meeting populaire. Au Kasaï central, le commissaire provincial de la police nationale appelle ses éléments sous son contrôle à respecter le code de bonne conduite de la CENI pendant la période électorale. Appel lancé ce mardi à Kananga au cours d'une parade organisée à l'état-major de ses corps. Le général Fidèle Kaoumba leur demande donc de veiller à la sécurité de tous les candidats, du matériel électoral et des sites de la CENI. Il est au micro de Blaise Ndongala.
Nous sommes policiers sous les drapeaux, nous sommes apolitiques, nous ne sommes pas des politiciens. Même si vous êtes commis à la sécurisation des politiciens, mais vous n'êtes pas politicien. Vous êtes là pour sécuriser la personne et ses biens. Même si c'est votre frère, vous ne pouvez pas faire la politique. Donc nous sommes apolitiques. Si on vous surprend, on vous arrête, puisque c'est interdit à la police de faire la politique. Nous ne pouvons pas accepter des policiers qui se comportent de cette façon. La loi nous interdit formellement. Nous sommes pendant la période électorale. Pendant cette période, nous devons sécuriser ceux qui sont en train de faire la propagande. Nous devons observer que les gens puissent respecter les codes de bonne conduite, puisqu'il y en a qui ont l'habitude d'aller déchirer les effigies ou les banderoles d'autres personnes. Alors, si nous attrapons de tels gens, ils sont obligatoirement arrêtés et déférés devant la justice.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, au Nord Kivu, des rebelles ougandais de l'ADF ont attaqué hier soir le quartier Mabasele dans la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. Le bilan qui a été dressé par la présidente de la société civile locale fait état de 10 personnes tuées et d'une autre portée disparue. Noëlla Muliwavio redoute que cette situation affecte le processus électoral dans la région. Elle a été jointe par Martial Papi Mukeba.
Il y a une incursion des hommes armés à Ouicha vers l'ouest dans le quartier Mabachele. Nous sommes maintenant dans le bilan de 10 personnes tuées et dans ces 10 personnes, il y a 2 femmes qui ont été tuées et il y a une personne portée disparue, c'est une femme. Nous sommes sur place, nous avons constaté que c'était toujours des ZBR compte tenu de leur mode opératoire. Pour l'instant, la population veut vider le quartier. Vous savez que même le côté est est vidé et voilà que l'ennemi attaque maintenant le côté ouest. Les incursions se poursuivent. Chaque semaine, il y a incursion. Quand il y a incursion, c'est toujours le déplacement aussi massif de la population. Et ce qui nous inquiète fort, c'est que peut-être à Ouicha, il n'y aura pas des élections parce que même ce qui s'observe, que le bureau de la CENI au territoire de Beni a déménagé vers la ville de Beni. Et cela prouve qu'il y aura risque que la population des territoires de Beni ne vont pas aller aux élections.
Revenons un instant sur le prix Nobel 2018. Dans un discours prononcé hier lundi après-midi à Oslo, en Norvège, le docteur Denis Mukwege a évoqué également la problématique de l'exploitation minière. Il estime que face aux atrocités commises dans le cadre de l'exploitation de ces minerais, les consommateurs de produits dérivés des minerais exploités en RDC doivent réfléchir. On l'écoute dans cet extrait choisi par Sarah Sumbela.
Nous aimons tous les belles voitures, les bijoux, les gadgets. J'ai moi-même un smartphone. Ces objets contiennent des minéraux qu'on trouve chez nous, souvent extraits dans des conditions inhumaines par des enfants jeunes qui sont victimes d'intimidation et de violences sexuelles. En conduisant votre voiture électrique, en utilisant votre smartphone, en admirant vos bijoux, réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets. En tant que consommateur, le moins qu'on puisse faire est d'insister que ces produits soient fabriqués dans le respect de la dignité humaine. Fermer les yeux devant les drames, c'est être complice. Ce ne sont pas seulement les auteurs des violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner les regards.
Pour la suite du journal sur Radio Okapi ce soir, sachez que les enfants représentent plus d'un tiers des cas d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo, révélation faite par l'UNICEF dans un communiqué publié ce mardi à Kinshasa. En plus d'autres approches à la riposte contre cette maladie, le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, UNICEF, met en œuvre la prise en charge psychosociale des enfants infectés à Beni et ses environs. La directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique centrale et de l'Ouest vient d'achever une mission de 5 jours au Nord Kivu. Madame Marie-Pierre Poirier explique cette approche innovatrice et elle s'est confiée à Jean-Pierre Elali Coco.
Et j'ai vu dans les centres de traitement de l'Ebola des choses très innovatrices qui sont mises en œuvre, où au lieu d'isoler les patients, y compris les petits bébés, loin du regard de tous, loin de leur famille, avec cette sentiment d'être peut-être abandonné, il y a maintenant des structures qui sont mises en plastique transparent qui permet le contact visuel, qui rassure les familles, mais qui rassure les petits-enfants. D'autre part, nous sommes très sensibles, nous UNICEF, à l'aspect psychosocial de la chose. Un cas d'Ebola n'est pas un cas, c'est un être humain. Il faut lui apporter aussi le soutien psychosocial, émotionnel dont il a besoin. Et donc, nous sommes en train de mobiliser les mamans qui ont elles-mêmes eu la maladie et qui sont guéries. On les appelle les berceuses. Ces dames ne peuvent plus être infectées puisqu'elles ont déjà été infectées dans le passé, qu'elles ont guéri. Et nous mobilisons ces mamans pour être aux côtés des enfants infectés et leur donner l'affection, l'amour, la proximité qui est tellement important pour qu'un enfant, surtout quand il est malade, tienne le coup et puisse rebondir.
Notez que le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, UNICEF, et ses principaux partenaires ont déjà identifié plus de 400 enfants orphelins et non accompagnés à cause du virus Ebola. Selon l'UNICEF, le nombre d'enfants séparés est lié à l'augmentation des patients dans les centres de traitement d'Ebola à Beni et Butembo, qui constituent les épicentres actuels de cette maladie.
L'invité.
L'invité de Radio Okapi, c'est le vice-premier ministre, ministre belge chargé des affaires étrangères. Samedi dernier à Bruxelles, lors de la réouverture du musée royal d'Afrique centrale, Didier Reynders a évoqué les possibilités de restitution d'œuvres d'art africains se trouvant dans ce musée. Il s'entretient avec Denise Maillot.
Monsieur Didier Reynders, bonjour.
Bonjour.
Dans quel cadre vous placez la réouverture de ce musée au niveau de la coopération entre la Belgique et, je dirais, l'Afrique et l'Afrique centrale?
On le place d'abord dans la logique d'une modernisation d'un outil, parce que c'est ça le problème de départ. On avait un outil assez vétuste, on a mis 5 ans à le moderniser et à permettre que l'on présente des collections dans de meilleures conditions, mais aussi effectivement dans une autre relation, pas seulement entre la Belgique et l'Afrique, mais une autre relation que l'on veut construire entre le continent européen et le continent africain, une alliance comme on l'a annoncé du côté des institutions européennes. Se dire... comment peut-on regarder ensemble vers l'avenir en sachant quel passé a été celui des deux continents, des relations entre eux, quel a été le passé de la colonisation, quel est le passé depuis parfois 50 à 60 ans des indépendances sur le continent africain, quel est le passé de la construction européenne pendant la même période, parce que pendant cette période d'indépendance, si on regarde les mêmes périodes, pendant que des pays africains devenaient indépendants, l'Union européenne, elle se construisait et a construit son propre projet. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on veut se dire, regardons ensemble vers la relation future. Comment l'Union africaine, l'Union européenne, les Africains et les Européens, pas seulement les politiques, peuvent travailler ensemble à l'avenir.
Est-ce qu'on parlerait aujourd'hui d'une relation plus équilibrée entre l'Afrique et l'Europe, entre la Belgique et l'Afrique centrale?
Oui, avec la même relation de tous les pays européens avec les régions d'Afrique dans lesquelles ils ont eu une influence et parfois un passé colonial. Je crois qu'il faut maintenant se dire qu'on a une tellement longue période, très souvent, d'indépendance, que l'on doit pouvoir regarder de manière tout à fait mature, de façon tout à fait adulte, je dirais, de part et d'autre, la relation future. Et ça se construit. Ça se construit en essayant soi-même, chez soi, de construire son environnement démocratique, de valeurs, de droits de l'homme, comme on essaie de le faire sur le continent européen, comme beaucoup de pays africains tentent de le faire seuls ou dans des sous-régions ou à travers l'Union africaine. Et puis en se disant, quelle est la meilleure façon pour les deux partenaires d'assurer leur développement? C'est pas simplement de l'altruisme, c'est pas simplement penser à l'autre, c'est aussi se dire dans cette relation, qu'est-ce qui est le mieux pour que chaque continent se développe dans de bonnes conditions?
Alors il y a un débat qui est soulevé depuis déjà quelques mois, c'est le débat sur la restitution des objets, notamment ethnographiques ou des restes humains qui se trouvent en Europe et en Belgique. Au mois de septembre, vous aviez dit que la Belgique est ouverte à ces discussions. Mais comment ça pourrait se faire concrètement? Est-ce que vous pensez aussi à une restitution physique de certains objets?
Il y a toute une série de formules possibles. Ça va de la restitution physique. Il faudra avoir un débat lorsque les demandes seront formulées, je pense, de la part d'un certain nombre de partenaires africains, de voir dans quelles conditions et pour quel type d'objet il peut avoir une restitution physique. Se dire à côté de cela quels sont les échanges que l'on peut avoir. Il y a déjà des collaborations aujourd'hui entre notre musée ici à Tervuren, le musée d'Afrique qui va rouvrir, et des musées africains. Il y a d'autres musées qui vont s'ouvrir en Afrique. Comment développer ce type de collaboration et d'échanges entre les musées? Comment développer aussi des expositions pour rendre un accès direct aux œuvres ou aux pièces à l'ensemble des citoyens, qu'ils soient européens ou africains? Et puis on le sait, il y a beaucoup d'archives. Et ces archives, on a déjà commencé ce travail depuis pas mal de temps, on les digitalise, on les met à disposition sur Internet, mais on peut aussi les mettre à disposition sous forme de copies, qui sont des copies d'excellente qualité.
Alors, si on aborde des questions plus ou moins politiques par rapport au Congo particulièrement, aujourd'hui, c'est la campagne électorale qui se déroule en RDC, on tend vers les élections. Et jusqu'aujourd'hui, au Congo, les autorités ont toujours un discours qui ne voudrait pas de l'ingérence de la communauté internationale. Alors, par rapport aux élections, votre position ici en Europe a toujours été de vouloir des élections crédibles. Est-ce que vous pensez que c'est un objectif qu'on pourrait atteindre en RDC?
Mais ce qu'on a toujours souhaité, c'est que les élections aient lieu, puisque la Constitution les prévoyait. Il y a déjà 2 ans que ces élections auraient dû avoir lieu, et qu'elles aient lieu dans des conditions qui permettent aux candidats de la majorité comme de l'opposition de se présenter librement pour faire en sorte qu'à la fin, les Congolaises, les Congolais choisissent elles-mêmes, eux-mêmes, leurs dirigeants. C'est ça le principe de base que l'Union européenne met en avant, comme les Nations unies d'ailleurs, partout à travers le monde, et que l'on met évidemment en avant dans un pays comme la RDC qui dispose d'une constitution qui fixait les règles. On a 2 ans de retard. Ce qu'on espère maintenant, c'est qu'effectivement les élections du 23 décembre puissent se tenir dans des conditions crédible aux yeux avant tout de la population congolaise. Ce sont les Congolaises et les Congolais eux-mêmes qui vont dire si la participation au scrutin, si le débat ouvert, si les élections elles-mêmes se déroulent dans de bonnes conditions. Nous, ce que l'on a fait depuis le début, c'est demander qu'elles aient lieu. C'était l'accord de la Saint-Sylvestre d'abord entre Congolais qui avait fixé des élections pendant l'année 2017. Elles n'ont pas eu lieu. Maintenant, la date a été fixée au 23 décembre. C'est un point très positif. Il y a des candidats de la majorité et des candidats de l'opposition. Nous n'avons pas de candidats à privilégier d'une manière ou d'une autre. C'est maintenant au Congo que les choses doivent se dérouler. Et je le répète, les Congolaises et les Congolais auront d'abord à dire elles-mêmes et eux-mêmes si ces élections se déroulent dans un cadre qu'ils considèrent comme crédible. Quand on organise des élections dans un pays européen, c'est d'abord la population de ce pays qui s'organise pour contrôler le déroulement des élections à travers des témoins, à travers des gens qui assument des fonctions dans des bureaux de vote et dans des bureaux de dépouillement. Et il faut que le sentiment national soit que les élections se déroulent correctement.
C'était Didier Rinders, le chef de la diplomatie belge, qui s'entretenait avec Denise Maillot. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté.